Bonjour, bienvenue dans notre 38e émission, dans notre musée imaginaire. Et aujourd'hui, nous allons évoquer dans une première partie le réalisme français avec des peintres comme Courbet et dans une deuxième partie, évoquer le sculpteur Brancusi et je vous dirai pourquoi. Donc aujourd'hui, nous allons enrichir, vous allez enrichir votre musée imaginaire. Le réalisme. Le réalisme, c'est un mouvement artistique spécifiquement français qui est né durant deux décennies, 1840-1860, par trois artistes majeurs, Daumier, 1808-1879, Millet, 1814-1875, et Courbet, 1819-1877. Le réalisme naît d'un désir de voir, de décrire le monde tel qu'il est, de façon objective, sans toutefois l'idéaliser. Cette peinture donc élimine la peinture d'histoire. C'est une peinture de scènes de genre, de paysages, de portraits et de nus. Elle s'oppose au classicisme, à l'académisme et au romantisme. Visuellement, c'est quoi le réalisme? On va faire deux comparaisons, si vous le voulez, entre Ingres, le classicisme, et Courbet. Pour Ingres, un tableau, regardez-le, intitulé « La source » 1856, et un tableau de Courbet intitulé « La source » 1868, et faites la comparaison entre ces deux tableaux. Celui d'Ingres, c'est une idée abstraite, une allégorie. La femme est idéalisée, elle n'a pas de pilosité, position de contrapposto. Chez Courbet, c'est une idée, il n'y a pas d'allégorie, c'est une scène de genre, elle n'est pas idéalisée. Parmi les peintres, le premier, Daumier. Daumier, c'est un illustrateur, c'est un caricaturiste célèbre. Il présente ses caricatures, ses illustrations dans différents journaux, mais c'est surtout un militant républicain. Exemple, Gargantua en Louis-Philippe, le roi dévore les écus arrachés au peuple. Il aura 6 mois de prison, mais en contrepartie, la notoriété. Une autre épreuve, la plus célèbre, 1834, le massacre de la rue Trans-Nonain. Violence du pouvoir de Louis-Philippe, il fait une lithographie, célèbre entre tous d'un implacable réalisme. Regardez-là, c'est extraordinaire. On voit le corps d'un ouvrier mort, nu, qui gît sur le dos, bras et jambes écartés, le père écrasant entre son dos et le sol le cadavre de son petit enfant. Baudelaire dira de cette scène, je cite, « Dans cette mansarde froide, il n'y a que silence et mort. » Deuxième peintre, Millet. Millet avec deux tableaux majeurs, Les Glaneuses, 1857, Orsay, opposition entre les paysans pauvres et la paysannerie riche. C'est un chef-d'œuvre, un prolétariat rural, trois femmes, le dos cassé, le regard viré au sol, autorisées à passer avant le coucher du soleil dans les champs moissonnés pour ramasser un à un les épis négligés. On voit le mouvement répétitif, se baisser, ramasser, se relever, au loin, abondance de la moisson, meule, charrette. Deuxième tableau, l'Angélus. L'Angélus se prie 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est une récolte de pommes de terre. Un homme et une femme récitant l'Angélus. La femme est dans une attitude plus religieuse que l'homme. L'homme représente la force avec la bêche. La femme, la récolte, le transport. On voit dans ce tableau que la religion catholique perd un peu son pouvoir du côté masculin. Ce tableau, c'est une icône mondialement célèbre, chef-d'œuvre. Troisième peintre, Courbet Gustave, 1819-1877. Une œuvre, Bonjour Monsieur Courbet, c'est une icône universelle. Arrivé à quelques kilomètres de Montpellier, Courbet rencontre, sur le chemin, son hôte, le nommé Bruyas, accompagné de son domestique, Calas, et de son chien breton. Courbet, il a une barbe assyrienne, allure d'un apôtre des temps modernes. Deuxième tableau, un enterrement à Ornas, 1849, un tableau immense, 3 mètres de hauteur, 6,68 mètres de longueur à Orsay. Un autre titre pour ce tableau, tableau de figure humaine, historique de l'enterrement à Ornas. C'est une mille sur toile, nous sommes en Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte est président. Ornas, où est né Gustave Courbet, est en Franche-Comté, dans le département du Doubs, près de Besançon. Et là, certainement que ce tableau a été fait suite à l'enterrement de son grand-père. Beaucoup de personnes, une cinquantaine de personnes, cinquantaine de portraits collectifs, c'est une scène de genre. On voit les notables, les religieux, des membres de sa famille. C'est un format monumental. Normalement, le format monumental est réservé à la peinture historique, d'où transgression des règles. Transgression des règles académiques par Courbet, d'où scandale du public et de la critique. C'est un provocateur artistique et politique. Courbet, c'est un républicain. Il participe à la Commune de Paris, il est élu même conseiller municipal, et il sera donc exilé en Suisse, où il décédera. Et le thème de ce tableau, c'est la mort. Alors, c'est quoi mourir? Ce tableau nous renvoie au tableau de Gréco, l'enterrement du comte d'Orgas, 1586-1588, chef-d'œuvre du peintre maniériste, symbole du siècle d'or espagnol. Pour Courbet, mourir, c'est une cérémonie humaine, mais non pas divine. Analyse beaucoup de réaux de couleurs, facture libre, enlevée, on voit les coups de pinceau. Pour Courbet, qui est un républicain, qui a eu une formation autodidacte, influencé par le réalisme des écoles espagnoles et flamandes, il est à Paris, il aura une relation intellectuelle avec des poètes comme Baudelaire, politique avec Proudhon, et les peintres de la nouvelle génération qui apparaissent Monet, Basile. Et au début des années 1850, il a une reconnaissance mondiale. Et Alfred Bruyas, un riche collectionneur de Montpellier, devient son mécène. Donc Courbet, c'est un provocateur, c'est un communard, il sera exilé en Suisse et il va décéder en Suisse dans un contexte idyllique. Courbet, c'est le génie du paysage. Je cite d'autres tableaux, les casseurs de pierre, bonjour Monsieur Courbet, nous en avons parlé, l'atelier du peintre, les demoiselles du bord de Seine, là aussi scandale, provocation, car ce sont des prostituées, et enfin le tableau, l'origine du monde, qui est à Orsay, qui est une commande privée. Et avant de rentrer à Orsay, ce tableau faisait partie de la collection du psychanalyste Jacques Lacan. C'est une œuvre audacieuse, d'une grande franchise, description quasi anatomique d'un sexe féminin, la couleur rappelant la peinture vénitienne. Au total, Courbet, il a un tempérament profondément provocateur. Il choisit de représenter la réalité telle qu'elle est. Il peint des gens ordinaires, mais c'est une œuvre artistique, sociale, révolutionnaire, d'une grande vérité. Deuxième partie, Brancusi-Constantin, 1876-1957. Je vous en parle parce qu'une de ses œuvres a été vendue aux enchères chez Christie à New York et a battu tous les records de vente aux enchères. Lundi 18 mai 1926. Comparaison stylistique intéressante avec Camille Claudel. Il est né en Roumanie en 1876 au sein d'un monde rural, archaïque, dans un village au pied des Carpates. Il décédera à Paris à 81 ans. Il quitte très tôt son village. Il rentre dans une école des beaux-arts et des métiers, dans un atelier de sculpture à Craiova. En 1898, c'est l'école des beaux-arts de Bucarest. 1904, il arrive en France, école des beaux-arts. En 1906-1907, il est diplômé des beaux-arts et expose au salon d'automne. Remarqué par Rodin, il passe un mois dans l'atelier de Rodin, puis il le quitte, venant d'un monde rural, archaïque, avec une tradition millénaire du travail du bois. Pour Brancusi, la texture de la matière doit conduire au thème et à la forme, à la création. Il y a une spécificité du matériau qui amène à la culture. Il est aussi sensibilisé par les autres civilisations, l'Asie, l'Afrique. Il va se promener dans les collections du Louvre, du musée Guimet et au musée ethnographique du Trocadéro. Il fréquente et ami intime de Marcel Duchamp, de Man Ray, de Zara. Au niveau des œuvres, j'en cite plusieurs et là je vous conseille d'aller sur votre site pour les regarder. C'est remarquable. Une première œuvre symbolique, Tête d'enfant. Il réalisera plusieurs têtes d'enfant. Puis ensuite, enfant, tête sur le côté. Le baiser, là aussi plusieurs versions. Il y a une géométrisation de la sculpture. Nous sommes dans la vague du cubisme. Autre œuvre, la sagesse de la terre, influence de Gauguin, du primitivisme. La muse endormie, bronze poli. Prométhée en 1911, un bronze poli, pas de socle. Maestra, 1910, c'est un oiseau légendaire roumain en marbre blanc. Là aussi, il fera plusieurs versions, plusieurs séries, créant une série de plusieurs oiseaux. En 1915, le nouveau-né, avec une formation de la sculpture en cercle, symbole de vie, version bronze, colonne sans fin, verticalité, constituée de rhomboïdes superposés, plusieurs versions, grande taille, structure, les rhomboïdes sont des structures de géométrie visuellement qui ressemblent à une forme de losange. Là, il y a une sérialité des colonnes. Œuvre Adam et Ève, le commencement du monde, l'oiseau d'or, l'oiseau dans l'espace. Et enfin, l'œuvre la plus remarquable, la princesse X, 1915-1916. C'est un bronze poli sur un socle de pierre calcaire, cubique, dimension 61-40-22 cm. Le point de départ, c'est peut-être une femme qui se regarde dans le miroir. Le regard du spectateur devant cette œuvre en 1916, c'est un scandale. Il est retiré du salon d'Antin, comme le sera d'ailleurs les Demoiselles d'Avignon de Picasso, pour obscénité. Mais en 1917, exposé aux USA, il devient une icône, une œuvre de modernité. Et cette œuvre sera appelée Marie Bonaparte. Marie Bonaparte est une psychanalyste qui a proche de Freud, et nous verrons son rôle. En 1920, Signac, dans une exposition, retire l'œuvre au Salon des Indépendants avant que la visite du ministre, et la remet après la visite. Donc vous voyez que cette œuvre est sulfureuse. Et devant la sculpture, Matisse et Picasso diront « Tiens, voilà le phallus ». Brancusi la conservera jusqu'à sa mort. Elle est actuellement au centre Beaubourg, dans l'atelier reconstitué de Brancusi. Ce n'est pas une statue phallique, mais c'est le buste de Marie Bonaparte, hommage à la radicalité de cette femme, à son travail qui a analysé la sexualité féminine. C'est l'une de ses œuvres les plus célèbres, l'une des sculptures les plus célèbres et importantes de l'art moderne, sculpture en bronze poli, forme verticale, lisse, épurée, évoquant à la fois, il est vrai, un buste humain et une forme phallique. Donc nous voyons que Brancusi est en rupture totale avec la sculpture académique, il recherche la simplicité des formes, l'épuration, il dira, je cite, « l'essence cosmique de la matière ». La sculpture exprime une idée, simplicité créant l'émotion. Brancusi, je cite, dira « ce n'est pas la forme extérieure qui est réelle, mais l'essence des choses ». Donc lundi dernier, 18 mai 1926, chez Christie à New York, vente record d'une statue de bronze appelée les Danaïdes 1913, qui s'est vendue 107 millions de francs, un record pour l'artiste, mais aussi un record de salle de vente. C'est la deuxième sculpture la plus chère vendue aux enchères, après celle de Giacometti. Promenez-vous dans cette liste d'œuvres dont je vous ai cité, et puis je suis convaincu que quelques-unes vont entrer dans notre musée imaginaire. À très bientôt.